Nous prions avant d'ouvrir la Bible et de lire dans les Écritures. Ta parole nous porte au monde, afin que nous prenions la parole pour répondre à et répondre de la promesse que tu nous fais en Christ, le ressuscité, le vivant. Ta parole nous désire en alliance, en témoin de la vie surabondante qui déborde nos carences. Elle nous révèle que personne n'est seulement de ce monde quand il ou elle est en devenir de lumière et d'éternité. Notre Dieu, par ton esprit, que résonne ta parole au travers des Écritures dans nos vies. Amen. Je vous invite à entendre ce matin un texte très court, juste 3-4 versets de l'Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 26 à 28. Paul écrit aux Galates : Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Et nous pourrions poursuivre l'énumération. Il n'y a plus ni jeune, ni vieux, ni malade, ni bien portant, ni employé, ni cadre, ni patron, ni pauvre, ni riche, ni citoyens du pays, ni étrangers, exilés ou migrants, etc., etc. Mais pourtant, il y en a. Il y a des Juifs et des Grecs. C'est-à-dire, en termes plus actuels, il y a différentes manières de penser le monde et le sens de l'existence, et donc différentes manières de les incarner. Il y a des esclaves et des hommes libres, c'est-à-dire différentes manières d'être considérées dans une société donnée, différentes manières d'être assignées à un destin dont il est bien difficile de s'émanciper selon qu'on est né dans tel ou tel lieu, dans telle ou telle famille. Il y a des hommes et des femmes, deux manières d'être humain dans et pour l'humanité. Seulement parce que les unes mettent les enfants au monde et pas les autres, sans lesquelles pourtant un enfant ne peut pas naître. De manière déclinée dans la majorité des sociétés, la grande majorité des sociétés, en subordination des unes par rapport aux autres, en domination des uns sur les autres. Il y a des caractéristiques et donc des différences constitutives et structurantes de l'humanité et des sociétés, et aussi des identités, notre identité, des identités telles que nous les recevons, les subissons ou les construisons, tout ce que nous disons de nous, en plus de notre nom, lorsque nous nous présentons à quelqu'un d'autre. Et pourtant, Paul écrit : Vous êtes tous enfants de Dieu. Alors vous êtes tous un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, toutes les différences sont transcendées en une unité. Mais disons-le tout de suite, cette unité ne consiste pas du tout en une fusion dans un grand tout divin où disparaîtraient toutes les caractéristiques des personnes, où serait effacée la singularité de chacun. Cette unité n'est pas non tout l'uniformité d'un « tous pareils, tous les mêmes, illusoires et aveuglants » qui ne reposerait que sur la peur des différences et des distinctions. Et cette unité proclamée par l'apôtre n'est pas non plus le slogan d'un grand élan d'émotion qui couperait la pensée de l'unité, de l'humain, du travail et même du devoir de la pensée. Ce « un », cette unité, c'est celle d'une égalité de dignité. Vous êtes tous enfants de Dieu. Et Paul est très ferme vis-à-vis des Galates. Les hiérarchies, les discriminations, les conditions imposées aux uns par les autres ne peuvent plus être des facteurs d'inclusion, d'exclusion, de domination dans l'assemblée des croyants. Car vous tous qui avez reçu le baptême, vous avez revêtu le Christ. Alors il ne faudrait pas conférer au baptême un pouvoir particulier. Il est seulement le signe dans l'Église de la reconnaissance humaine, de la reconnaissance divine. Le signe de la réponse personnelle à la grâce inconditionnelle qui réoriente l'existence selon ce que Jésus-Christ ouvre d'avenir pour une vie libérée des classements et des jugements. Le baptême, c'est le signe de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ pour la personne baptisée, mais cette œuvre ne dépend pas du baptême, bien sûr, et elle est aussi et déjà réalisée pour celles et ceux qui, dans l'Église, ne sont pas baptisés, et même, je le crois profondément, avec beaucoup d'autres, cette œuvre est aussi réalisée pour celles et ceux qui ne se disent pas chrétiens. Pour Paul, comme pour les évangiles qui en témoignent autrement que l'apôtre, Jésus-Christ n'est pas arrêté par les différences humaines. Il les traverse, toutes, même celles qui séparent la mort de la vie, les morts des vivants. Et c'est ce que signifie la résurrection, qu'aucune limite n'est infranchissable pour la transcendance que nous nommons Dieu. C'est l'œuvre de transformation du Christ en chacun que de l'aider à dépasser le monde des différences toujours prétexte à exclusion, à inégalité, à l'exercice d'un pouvoir, pour considérer chacun dans sa dignité inaltérable d'enfant de Dieu, sa dignité d'humain que Dieu espère. Ainsi, toutes nos différences deviennent indifférentes, puisqu'elles ne sont plus en rien déterminantes au regard de l'Évangile. Et bien sûr, il ne s'agit pas de réserver ce regard nouveau, cette compréhension nouvelle, cette manière d'être aux seuls membres de l'Église. L'Évangile est à destination de tous, il ne crée pas de séparation, de ségrégation, de ligne de démarcation. Dans l'Épître aux Galates, Paul se réfère à Abraham, avant Moïse, avant le don de la loi, pour justement pouvoir embrasser la dimension universelle de la promesse et du don de Dieu. La vérité du divin n'est contingente à aucun des critères qui structurent le monde et les sociétés humaines, pas plus que la vérité de la grâce n'est réservée à quelques-uns. Les différences constitutives des êtres humains et de leurs groupes n'ont ni le premier ni le dernier mot sur personne, et cela est la bonne nouvelle. Et quoi qu'il arrive dans notre existence, d'échecs, de ruptures, de maladies, de malheurs, quoi que nous fassions de bon ou de mauvais, d'erreurs, de violences ou de créativité, nous restons revêtus de cette dignité. Nous restons considérés de cette manière. Nous restons bénéficiaires de la grâce. Et cela est très différent de ce que les religions offrent et de ce qui est attendu d'elles communément. On attend des religions une réponse aux nombreux pourquoi de la vie, une consolation dans les épreuves, voire même un modèle idéal auquel s'identifier. Mais l'Évangile, affirme Paul, c'est le surgissement d'une dimension nouvelle dans laquelle ce qui fait la valeur de l'humain est indépendant de ses conditions d'être et de vie. Dans l'Évangile, c'est donc l'irruption d'une nouvelle conscience de soi-même. Rien de ce qui est inné ou acquis ne conditionne l'adoption par Dieu qui saisit la personne tout entière, son origine, son âge, sa culture, son sexe, sa sexualité, son état de santé, sa profession, ses malheurs, ses échecs. Et cette conscience de soi, libérée de ses considérations, permet de porter un regard sur autrui, libéré de ces mêmes considérations. Et c'est ainsi que nous témoignons de l'Évangile. Nous témoignons de l'Évangile en ne laissant pas les frontières déterminer la place et la valeur de l'être humain. Car c'est un problème de frontières qui pousse Paul à écrire. La frontière que les Galates pensent devoir instaurer entre les membres de la communauté qui sont d'origine juive et les membres de la communauté qui sont d'origine païenne. Et cela, ceux qui sont d'origine païenne, il faut qu'ils soient circoncis pour qu'ils puissent devenir vraiment de vrais chrétiens. Sinon, dehors, de l'autre côté de la frontière de la circoncision, du côté du dehors. Et ce pourrait être une autre frontière, celle entre l'esclave et l'homme libre, celle entre l'homme et la femme, ou toute autre ligne de démarcation servant à accueillir ou à exclure, à dominer ou à reconnaître comme égal. Car la loi sert à établir des frontières qui structurent la vie quotidienne et règlent les places et les relations de chacun. Et cette expérience, c'est aussi la nôtre et elle nous façonne profondément, même si ce n'est pas la loi de Moïse qui structure notre manière d'être au monde, mais d'autres lois, des codes, des règles, des critères de reconnaissance ou d'exclusion dont nous n'avons même pas toujours conscience, tellement nous y baignons, tant ils nous imprègnent. Et il ne suffit pas de repousser les frontières, de les reculer avec de nouveaux critères. Il ne suffit pas de faire des concessions, des assouplissements, des aménagements. Par exemple, j'en parlais il y a quelque temps dans une autre paroisse, lorsque l'Église réformée de France a commencé à ouvrir le ministère pastoral aux femmes, c'était une ouverture, ces femmes devaient rester célibataires. Il y avait quand même un critère, ouvrir oui, mais pas trop. L'Évangile, rappelle Paul, c'est Pâques. C'est la résurrection du crucifié, une manière d'annoncer que le Dieu de Jésus-Christ ne fait exception de personne, comme Paul l'écrit dans l'Épître aux Romains. Et que Pâques soit devenue vérité pour Paul a transformé sa compréhension de Dieu, de lui-même et du monde. Pâques, c'est ce surgissement de la conviction intérieure et bouleversante que ce que je suis ne tient pas à ce que je suis, mais à ce que la grâce de Dieu déclare que je suis. Vous me suivez? C'est-à-dire un enfant de Dieu. Nous sommes plus que ce que nous sommes à travers tout ce qui fait notre identité mondaine, et c'est ce plus qui nous fonde. Nous avons revêtu le Christ. Ou encore, un peu avant, nous l'avons entendu tout à l'heure dans la même épître aux Galates, Paul a écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Voilà une manière de parler qui peut sembler un peu démesurée, voire même un tantinet prétentieuse. Mais pourtant, c'est ainsi. Avec l'image du Christ comme vêtement revêtu, avec l'image du Christ vivant en lui et en chaque croyant, que Paul rend compte de ce qu'est l'amour inconditionnel que Dieu porte en Christ à chacun des humains. Un amour qui les crée comme ses enfants, métaphore d'origine et de reconnaissance, à la fois sens et élan d'existence. Le Christ, c'est cet amour vivant qui transforme celui ou celle qui ne se réduit plus à son identité mondaine, mais l'élargit, et aussi dans le sens d'une libération de toute frontière déterminante et contraignante. Bien sûr, il y a des hommes et des femmes, des esclaves et des hommes libres, des juifs et des grecs, des jeunes et des vieux, des malades et des bien portants, des riches et des pauvres, des citoyens et des étrangers. Mais plus que tout cela, il y a la fraternité dans l'universalité de la promesse faite à Abraham. Tous les clans de la terre seront bénis en toi. L'universalité est exposée à toutes les différences, car aucune ne peut la limiter. Et chacune de ces différences est un moyen de comprendre et d'accéder à l'universalité, ce qui, comme l'écrit le philosophe Alain Badiou dans son formidable livre sur Paul, ce qui est toujours comme une grâce. Reconnaissance et égalité de dignité pour tous. Un pour tous non négociable, sans demi-mesure, et qui implique le refus du jugement d'autrui sur le motif de sa ou ses différences. C'est l'effet Pâques, l'effet de Pâques. Et c'est ainsi que sont transformés intérieurement celles et ceux pour qui Pâques devient vérité dans leur existence. Et ainsi, nous témoignons de l'Évangile. Nul besoin de manifestation de puissance. Nul besoin de mener des vies exemplaires, remarquables et exemplaires. Seulement, ce regard ouvert, cette intelligence transformée, cette conscience de soi et d'autrui éveillée. Une conscience éveillée par une autre instance que soi-même, qui offre la possibilité de se comprendre depuis le regard de Dieu, depuis la grâce de Dieu, depuis l'amour de Dieu qui est le Christ, là où se tisse la fraternité. Et en quelque sorte, comme l'écrit le professeur François Vougat dans sa biographie de Paul, les frontières, la frontière ne passe plus entre nous, mais elle passe à l'intérieur de nous, entre tout ce que nous avons en nous de critères, de spécificités, de caractéristiques humaines et mondaines. Et puis, ce regard, cette présence du Christ en nous qui nous donne de ne pas y être enfermés. Et c'est là que se tisse la fraternité. Nous pourrions aussi aujourd'hui, en cette fête de l'amitié, parler justement d'amitié plutôt que de fraternité. En ce que l'amitié est une des forces de la est une des formes de la reconnaissance de l'autre, de la solidarité avec lui, du refus de le juger et de l'enfermer dans une catégorie. Cette amitié-là nous conduit à nous comporter en amis de celles et ceux qui entrent ici ce week-end ou à d'autres moments, sans que nous leur imposions de réciprocité dans cette amitié, sans non plus attendre d'eux qu'ils deviennent des amis intimes, hein, ceux à qui on confie ses secrets et ses peines, mais sans attendre d'eux non plus qu'ils restent comme cette lase amie des réseaux sociaux dont on attend, à travers l'approbation ou le commentaire élogieux, que la confirmation que nous valons quand même bien quelque chose. Alors nous rencontrons parfois, et surtout dans les églises, l'expression « amitié fraternelle » qui rassemble les deux pour exprimer cette relation envers autrui qui est ancrée du côté du regard de Dieu, du côté de l'unité dans l'égale dignité, une relation ouverte, sans condition, sans exigence, ce qui nous expose, il faut bien le dire aussi, à beaucoup d'incompréhension, de méfiance ou de mépris, et parfois même à de la violence. Mais c'est ainsi que nous témoignons de l'Évangile, ici et ailleurs. Et nous en témoignons chaque fois que nous veillons, protestons et luttons contre les frontières qui deviennent prétexte à l'esprit de clan, nationalisme et intégrisme de toutes sortes. Quand nous veillons, protestons, luttons contre tout esprit qui prend prétexte des différences pour réduire l'autre à moins que soi. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, ni ceux du nord ni ceux du sud, ni ceux de l'Orient ni ceux de l'Occident, ni riches ni pauvres, ni citoyens ni étrangers. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen.